À tous, bonjour aux courageux qui sont présents par ce temps magnifique et cette grande chaleur. Alors j'ai intitulé ce passage « Un vase de terre ayant une destinée céleste » puisque l'apôtre va utiliser l'expérience de sa vie, l'œuvre de Jésus-Christ en lui, pour aider les chrétiens de Corinthe à comprendre comment la relation avec Dieu se vit et qu'est-ce que le Saint-Esprit, qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur accomplit dans la vie du chrétien. Alors d'abord, l'apôtre rappelle au verset 7, « Nous portons, donc verset 7 du chapitre 4 de la deuxième aux Corinthiens, c'est la deuxième, hein ? Ouais, c'est ça, parce que j'ai noté la première, moi je me suis trompé, tiens. Chapitre 4, verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. L'apôtre pense à l'instrument humain à qui a été confié ce magnifique trésor de l'Évangile. Vous savez qu'à la fin du chapitre, enfin un petit peu plus haut dans le chapitre, il parle du mystère de la gloire de Christ qui resplendit sur ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, et là il explique dans le fond que c'est au travers de notre être en tant que corps humain que le Seigneur va faire resplendir sa gloire. Autrement dit, Jésus choisit des vases, c'est-à-dire des corps fragiles, des individus fragiles, limités, pour manifester une immense gloire qui est la sienne. Alors pourquoi Dieu a-t-il voulu que ce trésor soit contenu dans des vases de terre, c'est-à-dire dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit de chacun d'entre nous qui sommes nés de nouveau? Eh bien, le texte nous le dit, pour que la grande puissance de Dieu lui soit attribuée et non pas à nous. Alors c'est tout l'inverse de ce qui se passe dans la société. Vous savez, dans la société, les responsables, ceux qui ont des choses à dire aux autres, et ils essayent toujours de plaire et d'être reconnus comme étant des individus intelligents. C'est tout l'inverse. Le chrétien, vous et moi qui parlons aux hommes et aux femmes qui nous entourent, à nos amis, on le fait toujours dans une certaine faiblesse. Et justement, c'est l'inverse de ce que les individus pensent. La puissance de Dieu s'exprime toujours en ces temps de grâce, à travers de la faiblesse. Le Christ est venu dans une humilité, en s'étant humilié, il est venu, il a quitté son ciel de gloire, il a pour un temps abandonné, si je puis dire, laissé de côté certains attributs, c'est-à-dire la connaissance de la fin des temps, par exemple, je dis bien pour un temps donné, pendant son ministère sur la terre, mais il a accepté de s'humilier, et donc il est apparu, lui, le Dieu vivant et vrai, comme étant un individu quelconque. D'ailleurs, beaucoup de Juifs ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il se prend celui-là, nous allons te lapider, parce que toi qui es un homme, tu te prends pour Dieu. Donc vous voyez, il y avait déjà une difficulté pour les Juifs à comprendre ce principe de l'humilité. Le message de l'Évangile est donc volontairement confié à des êtres faibles, et là il parle aux chrétiens, à des êtres faibles, souvent déficients même, et ne pas la créature. La tâche du partage de l'Évangile, du témoignage à la gloire de Christ, eh bien c'est au-delà de notre capacité. Ça nous dépasse. Jour et nuit, nous sommes appelés à vivre pour le Seigneur depuis notre conversion. Ça, c'est merveilleux, c'est que si c'était une faible business, disant la gloire revient forcément à Dieu. Il a dit la suivante, quelque chose n'est pas normal lorsque le vase attire à son profit la gloire qui revient au trésor. Que les joyeux gardent la gloire, que les blancs la gloire et non à Dieu. Ce serait le monde à l'envers. Dans les actes, il y a cet individu qui court, dit, donnez-moi cette grande puissance. Hein, il veut acheter cette puissance de la part des apôtres. Parce que lui était toujours dans une conception humaine des choses. Alors l'apôtre 4, verset 8, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Donc là, il explique un petit peu certains aspects de son ministère, qui n'est pas toujours un ministère qui s'est développé dans la facilité, bien au contraire, comme nous le savons. Humainement parlant, Paul n'entrevoyait pas toujours l'issue de ses difficultés, et pourtant, Le Seigneur n'a jamais permis que son serviteur touche le fond du désespoir. Donc il est en train de dire à des Grecs, parce que, oui, j'ai oublié de vous dire, mais je pense que vous le savez, la conception grecque de l'époque, c'est que ce qui est faible n'est pas digne d'intérêt. Quelqu'un qui demande pardon, qui s'humilie, un Dieu qui meurt sur une croix, ça ne mérite aucune attention. Ça, c'était la conception de la philosophie grecque et du monde grec de l'époque. Et donc, Paul va à contre-courant de cette culture grecque de l'époque pour dire, mais c'est tout l'inverse, ne vous découragez pas, chrétiens corinthiens, donc de culture grecque, ne vous découragez pas, c'est dans la faiblesse que Dieu nous utilise, que Dieu est puissant. C'était donc un concept nouveau, révolutionnaire pour des Grecs. Alors maintenant que j'ai mis le cadre culturel en toile de fond, on peut mieux comprendre pourquoi l'apôtre, par le Saint-Esprit, insiste tellement sur cet aspect des choses. Et il dit « moi-même en tant qu'apôtre », c'est-à-dire juif de naissance, hein, et romain aussi de naissance d'ailleurs, mais juif, donc d'une autre culture que la vôtre, je subis la même humiliation. Et donc, regardez, Dieu m'utilise. Et donc, l'apôtre ne s'est jamais trouvé dans une situation sans issue. Mais pourtant, il a connu la détresse, mais non le désespoir. Il va dire au verset 9, persécuté, mais non abandonné. Pourquoi? Parce que les Corinthiens se disaient, mais si on est persécuté, c'est qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. On a dû commettre un péché où c'est pas normal. Et Paul leur dit, mais si, regardez, nous sommes, nous, apôtres, persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés par Dieu. Et donc l'apôtre se sentait souvent très près, talonné très près par l'ennemi, mais le Seigneur ne l'a jamais abandonné au pire moment de son existence. Abattu, dit-il, mais non perdu. Paul a plus d'une fois été sérieusement blessé au combat, mais le Seigneur l'a toujours remis sur ses pieds pour qu'il aille proclamer la glorieuse nouvelle de l'Évangile. Et dans le nouveau commentaire biblique, eh bien, il y a cette paraphrase de ce passage biblique. Ce verset est rendu ainsi, cerné, mais non coupé de tout, ne sachant que faire, mais jamais privé de tout espoir, pourchassé par les hommes, mais jamais abandonné par Dieu, souvent terrassé, mais jamais achevé. Vous voyez, en termes plus modernes. Alors naturellement, comme les chrétiens de Corinthe, on pourrait se poser la question, mais pourquoi le Seigneur a permis que son serviteur traverse tant d'épreuves? Est-ce que le Dieu Tout-Puissant ne pouvait pas permettre plus de facilité pour l'annonce de l'Évangile? Et on serait tenté de croire éventuellement qu'il aurait pu servir l'apôtre Paul, qu'il aurait pu servir le Maître, plus efficacement si celui-ci avait ôté les obstacles de son chemin. C'est vrai que souvent on se dit, si j'avais pas tant de soucis, je pourrais faire ceci pour Dieu. Oh, j'oserais parler du Seigneur si j'avais pas connu telle difficulté dans ma vie, voire tel échec. Mais curieusement, l'Écriture, elle, donc les Saintes Écritures, la Bible, affirme le contraire. Dieu, dans son admirable sagesse, juge bon de permettre à ses serviteurs d'être frappés par la maladie, assaillis par les soucis, exposés à l'affliction, à la persécution, aux difficultés et à la détresse. Tous ces maux, toutes ces difficultés, ont pour but de briser le vase de terre et de mieux faire resplendir ainsi la lumière de l'Évangile. Vous savez ce qui frappe les gens, dans le fond? C'est quand un chrétien, par exemple, est malade ou il rencontre des tas de difficultés dans sa vie et continue d'avoir la foi, de placer sa confiance en Dieu. Alors, dans un premier temps, les non-chrétiens disent « mais c'est un fou ». Regardez, il est complètement illuminé. Il réfléchit même plus, il est dans les difficultés, comme c'est pas permis, puis il continue de croire, mais c'est de la folie. Et puis, avec le temps qui passe et la permanence de l'attitude de foi du chrétien, voilà que ces mêmes individus non chrétiens qui pouvaient se moquer ou mépriser ce chrétien, d'un seul coup se disent « mais il a une sacrée force en lui ». Vous savez, les gens souvent ils nous disent « ah, j'aimerais avoir la foi comme vous ». Mais oui, parce que ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose de mystérieux, de glorieux dans le fait de croire envers et contre tout, et d'avoir toujours cette paix dans le cœur, et cette joie comme nous l'avons chanté. Et l'apôtre rajoute au verset 10 du chapitre 4, « Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. » La vie d'un serviteur de Dieu, la vie d'un chrétien, se vit dans la mort à lui-même. Vous vous souvenez de cet enseignement de Jésus dans les évangiles, que celui qui veut me suivre prenne sa croix et qu'il me suive, hein, qu'il s'oublie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. De même que le Seigneur Jésus, durant son séjour sur terre, a toujours rencontré la violence et la persécution, ceux qui marchent dans ses pas subiront le même traitement. Nous sommes, nous, dans une société en paix pour le moment, mais nous le savons, dans des pays pas très éloignés de notre territoire national, eh bien, se trouvent des chrétiens persécutés pour leur foi. Mais en même temps, ces difficultés rencontrées, cette persécution, n'a rien d'une défaite. Au contraire, c'est le chemin de la victoire. La mort quotidienne à soi-même se transforme en bénédiction pour les autres. C'est ça que l'apôtre est en train de dire. Moi, je suis en train de mourir à moi-même. Je vis pour Christ, je ne vis plus pour moi-même. Mais voilà que vous, Corinthiens, parce que j'ai accepté ceci, ce mode de vie, ce mode de disciple, d'apôtre, appelé à être apôtre, eh bien, ma mort quotidienne a engendré chez vous la vie. Vous avez reçu le Christ et vous êtes nés de nouveau, vous êtes sauvés. C'est un petit peu ce que pourraient vous dire vos pères spirituels que je ne connais pas. Je ne sais pas qui vous avez pour père spirituel, enfin pour missionnaire ou personne vietnamienne qui vous aurait annoncé l'Évangile. Mais vous pourriez lui dire, il pourrait vous dire la même chose, celui qui vous a amené l'Évangile. Moi, j'ai donné ma vie pour Christ, je la donne par sa grâce. Mais ça a engendré ma mort à moi-même, a engendré chez vous la vie de Christ. Et moi, je peux dire ça vis-à-vis de mon propre père spirituel qui m'a enseigné l'Évangile. Et on peut se poser la question, mais comment le monde peut-il voir la vie de Christ si celui-ci n'est pas physiquement présent dans le monde d'aujourd'hui? Comment est-ce que les gens peuvent voir la vie de Christ? Eh bien, la vie de Christ est manifestée dans nos corps chaque fois que nous souffrons au service du Seigneur, répond l'apôtre Paul. C'est extraordinaire cette perspective de notre témoignage, même quand nous sommes au travail sans rien dire et que nous acceptons toutes sortes de situations que les autres refusent, contre lesquelles ils se rebellent. Nous, en tant que chrétiens, nous acceptons des choses en comptant sur Dieu. Alors les autres nous regardent et puis se disent, mais on dirait on dirait un petit Christ, c'est le terme chrétien, hein, à Antioche, c'était ça. C'est que ils ont les habitants d'Antioche, quand ils ont vu les chrétiens être persécutés, ils ont dit, quand ils ont vu ces disciples persécutés, ils ont dit, c'est les chrétiens, les petits Christ, ça veut dire petit Christ chrétien. C'est le modèle, on dirait que c'est le Christ quand on les voit, ces gens-là. On pourrait dire la même chose de chacun d'entre nous, par la grâce de Dieu. Cette pensée, au verset 11, l'apôtre dit « Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. » Vous voyez, c'est ça, il est en train de dire, on sert de témoin. C'est merveilleux parce que c'est aussi valable pour nous aujourd'hui. Cette pensée de la vie résultant de la mort se poursuit au verset 11. Elle énonce l'un des principes les plus profonds de notre existence. Par exemple, pour avoir mangé au milieu d'amis vietnamiens plusieurs fois, là, je me souviens, dans des week-ends d'église ou lors d'un anniversaire, il y a peut-être plus d'un an maintenant, j'étais venu à un anniversaire. Et je sais même plus où ça se passait, en grande banlieue parisienne, là. Et alors, on m'a servi énormément de jolies choses et de très bonnes choses à manger. Et alors, vous voyez, la viande que nous mangeons et qui contribue à notre vie physique résulte de la mort d'animaux. Il en est de même dans la vie spirituelle. C'est la mort des témoins pour Christ qui engendre la vie. On se nourrit de leur exemple, de leur modèle. Et c'est justement l'exemple suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en même temps, nous avons du mal à nous faire à cette idée, parce que mourir à soi-même, c'est pas naturel. Quand un serviteur du Seigneur se trouve violemment pris à partie, nous estimons que cela est tragique. Quand on écoute les informations par porte ouverte sur toutes les persécutions des chrétiens, des fois je me dis, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu permets des choses pareilles? C'est terrible. En fait, ces situations-là, eh bien, sont conformes à la stratégie divine et n'ont rien d'exceptionnel. Notre côtoiement constant de la mort à cause de Jésus permet à la vie de Jésus de se manifester dans notre chair mortelle. Je ne sais pas si vous avez lu un livre qui est sorti il y a pas mal de décennies en arrière, s'appelle « Pardonne-moi, Natacha », c'est l'histoire d'un geôlier au temps du communisme soviétique, hein, avant la chute du mur de Berlin et puis l'effondrement du communisme soviétique. Ce geôlier est russe, eh bien il était chargé de surveiller les prisonniers chrétiens et puis de leur faire baver comme c'est pas permis. Et entre autres, il y avait une dénommée Natacha qui était une sœur en Christ à cette époque. Et puis un jour, à force de la persécuter, elle en est morte. Et lui, il est resté comme ça avec son cœur endurci. Puis un jour, il a repensé à cette jeune femme chrétienne, Natacha. Et puis le Saint-Esprit l'a saisi, il est devenu chrétien. Et il a été en son tour persécuté par ses propres collègues qui étaient, eux, restés dans leur athéisme. Et c'est pour ça qu'il a appelé ce bouquin son témoignage, Pardonne-moi Natacha, parce que en Christ, il a réalisé toute la folie de la puissance du péché qui agissait dans sa vie. Et donc, cette jeune femme est décédée et elle a engendré au moins, peut-être davantage qu'une personne, mais au moins la vie chez lui, la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il est dit, notre côtoiement constant de la mort à cause de Jésus permet à la vie de Jésus de se manifester dans notre chair mortelle. Et l'apôtre, au verset 12, de dire, ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Hein, ce que je vous présente, ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Paul récapitule son raisonnement en rappelant aux Corinthiens que c'est grâce à ses souffrances que la vie leur est parvenue, la vie spirituelle, la vie en Christ. Pour pouvoir apporter l'évangile à Corinthe, l'apôtre avait dû endurer des épreuves inhumaines. Mais elles ont porté leurs fruits, puisque des Corinthiens purent placer leur confiance dans le Seigneur Jésus et hériter désormais la vie éternelle. En conclusion, on peut dire que les souffrances physiques et les renoncements de l'apôtre Paul se traduisent en profit spirituel pour les Corinthiens. Nous avons généralement tendance, en ce qui nous concerne, dans nos maladies, à crier au Seigneur en lui demandant de nous en délivrer pour que nous puissions mieux le servir. C'est une réaction tout à fait naturelle. D'ailleurs, nous sommes invités par l'Écriture sainte à faire connaître à Dieu tous nos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Mais en même temps, on peut se poser la question, peut-être ferions-nous bien parfois de le remercier pour ces épreuves dans nos vies. Et devrions-nous nous glorifier de nos infirmités pour que la puissance de Christ repose sur nous? C'est un exemple assez courant. Quand on va visiter des chrétiens qui sont touchés à la mort dans leur santé physique, dans les hôpitaux, dans les soins terminaux, les soins palliatifs, souvent on ressort de cette entrevue, de ce moment de prière, de communion fraternelle, avec la sœur ou avec le frère, ressourcé, parce que la sœur ou le frère sait qu'il va mourir, mais il est dans un état que je qualifierais de présence de Dieu particulière, et sa vie physique, la fin de sa vie physique, ses souffrances ont moins d'importance que ce qui l'attend. Je l'ai déjà dit ici, il y a pas mal d'années, je crois, ayant assisté au départ pour la patrie céleste d'une de mes enfants en Christ, qui avait 40 ans, elle a dit à son mari, avant de rendre son dernier soupir, elle a dit à son mari, pourquoi pleures-tu? Il était chrétien lui aussi. Hein. Et elle lui a dit, pourquoi pleures-tu? Et puis, elle est partie. Et elle est partie en paix, elle est partie d'une manière tout à fait surprenante. Et pour avoir accompagné des familles non chrétiennes dans le deuil, je peux vous dire que j'ai pas toujours vu cette paix. Je dis pas toujours, parce que des fois je l'ai vu chez des gens apparemment non chrétiens. Mais chez les chrétiens vivant en Christ, souvent il y a cette paix qui les envahit. Il y a un moment de crainte, je me souviens avoir accompagné pas mal de personnes, il y a un moment de crainte, il y a une espèce de réaction de l'être humain face à la mort qui me semble tout à fait naturelle, et puis après il y a un moment de paix qui s'installe. Au verset 13, il est dit « Et comme nous avons le même esprit de foi qui s'est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. » Pourquoi? Parce que les Corinthiens se disaient, mais c'est pour qu'est-ce que vous voulez qu'on témoigne? On est dans la persécution, on est face à des tas de difficultés. Qu'est-ce qu'on va aller dire aux gens? Parce que ils voyaient les choses par le mauvais bout, comme l'on dit en France, de la lorgnette. Hein. Ils prenaient les choses dans le mauvais sens. Alors l'apôtre leur dit, mais c'est pas parce que je suis persécuté que je vais m'arrêter de parler. Parce que pour eux, c'était normal, on est persécuté, on se tait. On ne doit parler que quand c'est glorieux, comme dans la conception de la culture grecque. On ne rapporte que des faits glorieux, toutes les défaites, on les cache. Les Égyptiens, c'était pareil d'ailleurs. Alors, l'apôtre va à contresens, à contre-pied de cette culture. Il dit, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur, nous ressuscitera aussi avec lui, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Paul a parlé de la constante fragilité et de la faiblesse du vase humain à qui est confié le précieux message de l'Évangile. Mais quelle est son attitude personnelle devant cet état de choses? Se sent-il abattu, consterné, découragé? On peut dire que non. La foi lui permet d'aller de l'avant et de proclamer l'Évangile, parce qu'il sait qu'au-delà des souffrances de la vie présente, se trouve une gloire ineffable. Donc il a, comme il l'a dit, comme il va le dire, pardon, nous ne regardons pas aux choses visibles, elles sont passagères. Nous regardons aux choses invisibles qui sont éternelles. Donc l'apôtre a un double regard, un regard au niveau des réalités quotidiennes, et simultanément, il a en même temps un regard dans le ciel, un regard plein d'espérance, un regard de certitude, sachant ce qui l'attend, la gloire à venir. Partout où existe une foi véritable, elle doit s'exprimer, ne pas rester muette, quelles que soient les circonstances. Ça, c'est quelque chose de très important que l'Écriture nous enseigne. Partout où existe une foi véritable, elle doit s'exprimer, ne pas rester muette. C'est-à-dire, nous sommes appelés, avant ce temps de vacances, eh bien, nous sommes appelés à penser à nos vacances et comment est-ce que nous allons, pendant nos vacances, partager l'Évangile là où nous allons nous trouver. Verset 14, « Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec lui et nous fera paraître avec vous en sa présence. » Paul ne se laisse pas ébranler par la perspective de la mort, toujours présente à ses côtés. Il révèle le secret de l'intrépidité qui l'anime pour proclamer le message chrétien. Son secret, c'est qu'il sait que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera aussi et nous fera paraître avec vous, donc vous Corinthiens, vous chrétiens, en sa présence. Il savait que cette vie n'est pas tout et que le chrétien a la certitude de la résurrection. Le même Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus ressuscitera aussi l'apôtre Paul avec Jésus et le fera paraître avec les Corinthiens en sa présence. Et le verset 15 nous dit « Car tout cela arrive à cause de vous. » Donc toutes ces persécutions arrivent à cause de vous, dit-il, vous Corinthiens, vous mes enfants dans la foi. Pourquoi ça arrive à cause de vous? Afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est-à-dire, l'apôtre, par son ministère, est confronté à la mort à lui-même et à la véritable mort physique. Mais en même temps, cela engendre chez une multitude de personnes, eh bien, un nombre d'actions de grâce. C'est extraordinaire. Notre témoignage, votre témoignage, mon témoignage, notre témoignage, eh bien, va être utilisé par Dieu pour multiplier justement les actions de grâce de ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, tout ce que Paul dit et fait s'inspire de cette double motivation. La résurrection qui l'attend et le fait qu'un grand nombre vont pouvoir accéder à la vie éternelle et glorifier le nom de Dieu. Dans une traduction des éditions Farel qui de la Bible qui s'appelle le livre, ce verset est rendu de la manière suivante: c'est pour votre bien que nous souffrons. Plus vous serez nombreux à être gagnés au Christ, plus vous serez nombreux à le remercier de sa grande bonté, et plus le Seigneur sera glorifié. Voyez la logique. Et c'est pour ça qu'au verset 16, il rajoute: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc Paul a expliqué aux Corinthiens qu'il était prêt à supporter toutes sortes d'épreuves et à s'exposer à tous les dangers, parce qu'il a la certitude de la résurrection. C'est pourquoi il ne perd pas courage. Si d'un côté le processus de destruction physique est déjà en marche, c'est-à-dire le vieillissement, de l'autre, le processus du renouvellement spirituel est constant, et il est évidemment lui aussi en marche ce processus, et ça permet à Paul de poursuivre son œuvre en dépit de toutes les adversités. C'est-à-dire qu'il regarde à l'extérieur de lui, il pense à la résurrection, et il regarde en lui et il constate le renouvellement de l'homme nouveau, du Paul en Christ, au détriment évidemment du Paul physique, hein, c'est-à-dire son physique comme le nôtre, enfin peut-être plus le mien que le vôtre, vu l'âge, se diminue, mais lui il y a un renouvellement spirituel en lui. Alors vous voyez, il a deux perspectives, perspective de la gloire éternelle, et en même temps une perspective intérieure, donc subjective, qui repose sur des affirmations objectives, puisque c'est la parole de Dieu qui lui confirme, il va ressusciter. Et ça a pour effet d'avoir une implication personnelle. Il regarde en lui, spirituellement parlant, et il se dit, c'est extraordinaire, Christ se développe en moi. Alors que moi, je me sens fatigué, faible et peu capable, eh bien en réalité, voilà, dans cette faiblesse, la puissance de Dieu se manifeste. Et c'est un grand artiste, Michel-Ange, donc, qui a écrit la chose suivante, en parlant d'un bloc de marbre. Il a dit, plus le bloc de marbre est amenuisé, sous son couteau de sculpteur, plus le bloc de marbre est amenuisé, plus la statue prend forme. C'est-à-dire, plus nous, physiquement, nous perdons de nos capacités, plus la statue de Christ en nous se développe. Plus nous nous abandonnons entre les mains du Maître, plus nous nous sentons incapables, plus le Seigneur, lui, grandit en nous. Et ça nous rappelle cette phrase de Jean Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et c'est ce qui se produit dans nos vies. Et il dit... Un autre commentateur a dit « Il en sera de même lors de la grande transformation qui nous attend. La vie qui anime le papillon, vous savez, ce joli insecte qui vole partout, est la même que celle qui était dans la larve. Hein? » Donc, et par le mystère de la... Ah, comment ça s'appelle ça? Quand la larve devient papillon. Ça a une j'ai oublié le mot, tiens. Ouais, bon, bref, j'ai oublié le mot, ça porte un nom. Et c'est exactement la même vie. Elle était déjà dans la larve et ça devient un papillon. Ah, oh, c'est fou, je le trouve plus, mais ça, bon, bref. Et il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Les leçons que nous tirons des souffrances de la vie présente produisent pour nous un fruit abondant pour la vie à venir. Quelqu'un a écrit la chose suivante, un peu de joie pénètre en nous pendant que nous sommes dans ce monde. Dans l'autre monde, c'est nous qui entrerons dans la joie. Hein, pour le moment, on connaît des moments de joie, et puis dans l'au-delà, nous entrerons dans la joie. Et c'est là où il termine en disant, parce que nous regardons, verset 18, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. L'objectif du ministère de l'apôtre Paul, comme l'objectif de nos vies, doit être ce qui n'est pas visible, c'est-à-dire la gloire de Dieu qu'on ne peut saisir et pénétrer dans nos corps mortels que par la foi. Alors d'un côté, il y a nos intelligences qui considèrent nos situations, nos vies de tous les jours, et en plus de notre intelligence ou de nos intelligences, eh bien, il y a la foi. Et la foi nous fait voir ce qui est invisible. Alors que Dieu bénisse chacun d'entre nous, et en vous souhaitant de bonnes vacances, un bel été, et bien que ce soit aussi un bel été spirituel pour chacun d'entre nous, pour la gloire de Dieu. Amen.